Deuxième chapitre, l'ombre du gouffre. Entre la plage de Penhat, vaste bande de sable dont le croissant échancre l'extrémité nord-ouest de la presqu'île de Crozon, près de la pointe du Toulinguet et la pointe de Penhir ou pointe des Pois, la côte, précipice à pic sur l'insondable abîme de l'Atlantique, dresse partout un infranchissable rempart de 180 pieds de haut qui peut se garder tout seul des attaques du large et défie l'escalade. Au Toulinguet et à Penhir seulement, des postes de surveillance, occupés par des gardes-côtes et des batteries, balayant les grèves accessibles. En un point cependant, vis-à-vis le village de Kerbonne, une taille verticale, sorte de petit fjord norvégien, entaille le monstrueux bloc de grès quartzeux dans toute sa hauteur et forme un énorme entonnoir où, par les gros temps, les lames s'engouffrent avec un tapage formidable couvrant d'embrun salé la lande pierreuse et les toits du misérable amas de masure voisin. Parfois, il est impossible de passer dans le sentier de douaniers qui court en cet endroit, suivant la crête de la falaise. En bas, une voix de tempête mugit sans cesse, rauque, profonde, répercutée par d'invisibles grottes. On appelle cette échancrure, cette caverne presque toujours sous-marine, le Vorok. Toute cette sombre soirée de novembre 1803 et une partie de la nuit, le meuglement de taureaux du Vorok avait retenti, jetant l'épouvante aux environs, et le garde-côte Nedelec Poulmic, renfermé soigneusement dans la maisonnette de la pointe des Pois, tout heureux de se sentir à l'abri, disait à son camarade Guillaume Le Gall, de garde avec lui, « Mauvaise voix qu'il a ce soir, le Vorok, sa voix de malheur et de naufrage !» Guillaume avait riposté, « C'est un endroit d'où il ne peut sortir que du mal pour le pays et pour nous. » Poulmic souffla d'une intonation basse et étranglée de terreur. D'autant qu'on assure que les âmes des noyés y reviennent et que souvent on voit leurs ombres y errer et s'en élever sous des formes qui font peur. Par la petite fenêtre du poste donnant de ce côté, il jetait des regards craintifs là-bas vers ce Vorok redouté. Mais rien n'en sortait qu'une vague fumée blanchâtre, à peine visible dans ces ténèbres, écume des longues lames venues du large, buées humides de la mer. Peu à peu, à mesure que les heures du soir passaient, faisant place aux heures plus lourdes, plus opaques de la nuit, les grondements diminuaient d'intensité, plus espacés, moins caverneux. Le Gall observa. Le vent a tendance à calmer, conjurerait. Le coup de suroît ne tiendra pas longtemps cette fois. Au bas de la roche escarpée, qui termine la pointe de Penhir, et tout autour des tas de pois, ces écueils à la forme de pyramides, semblables à des montagnes tombées dans la mer et prolongeant au loin le promontoire, les rugissements paraissaient moins forts, moins terribles. Poulmic continua. C'est grand de basse mer cette nuit. Bien sûr que la tempête s'en ira aussi vite qu'elle est arrivée. Le Gall regardait dans le sud. Il compléta cette affirmation par une observation nouvelle. « Ah ah, la brume accourt derrière Saint et le Rat. Elle va aplatir la mer plus tôt qu'on ne pensait. On aura du calme pour tout le restant de la nuit. Allons, va te reposer. De minuit à 2 heures, je prends le quart. » Plus lentes encore, dans l'engourdissement de la nature, les minutes glissèrent, enveloppant de somnolence le veilleur solitaire qui constata, l'oreille machinalement attentive, « Ça s'apaise de plus en plus. À 2 heures, c'est la fin du jusant. Le flot va reprendre bientôt. » Le moment du tour de garde de son camarade approchait. Instinctivement, par dernière précaution, avant d'aller l'éveiller, il examina tour à tour la mer, puis la lande, d'une rapide inspection, essayant de percer les étendues brumeuses, impénétrables par endroits, et laissant cependant par places des trouées où plongeaient assez facilement les yeux. Une exclamation sourde lui échappa. « Madoué !» Et après s'être orienté un instant pour s'assurer qu'il ne se trompait pas, il ajouta « Les v'là ces visions du Vorok dont Poulmic parlait ce soir. » Là-bas, à quelques centaines de pieds, et certainement au-dessus de la béante ouverture du gouffre, une lueur étrange, tantôt rouge, tantôt jaune, éclairait la brume, formait un halo inquiétant et mouvant. Il balbutia, tenaillé de crainte, « Du feu, du soufre, la flamme du purgatoire que ce serait, les âmes des noyés qui se lamentent. Seigneur Dieu! Tout avait soudain disparu, et ses prunelles se heurtaient à un mur opaque de brouillard. Il passa dans une pièce voisine et revint accompagner le poulmic en lui racontant ce qu'il croyait avoir vu. Frissonnant, épaule contre épaule, ils concentrèrent toute leur puissance de vision dans la direction de l'abîme, et au bout de quelque temps, Nédélec s'écria « Tu as dit vrai, Guillaume, ça flambe encore ?» De nouveau, une dansante lumière filtrait, fantastique, irréelle, semblant venir d'en bas, des profondeurs de l'océan, des entrailles de la terre. Les deux hommes serrés l'un contre l'autre, muets d'effroi, observaient toujours. Tout à coup, le Gall s'écria, le bras tendu. « L'ombre ! L'ombre qui monte du gouffre, vois-tu ? » Tandis que Poulmic, les prunelles fixes, la bouche béante, laissait échapper d'une voix frémissante. « Bonne dame de Rosmadou, ayez pitié des trépassés. C'est l'âme d'un malheureux péri en mer qui remue là-bas et qui réclame des prières avec ses bras ainsi agités qu'on jurerait des ailes. » Dans l'orbe lumineux et sur l'écran blanchâtre de la brume, une ombre gigantesque dessinait la forme d'une chauve-souris monstrueuse. Puis d'autres ombres parurent, les unes après les autres, semblant envelopper, étreindre la première, et le brouillard ondula, tourbillonna, roula sur lui-même, brouillant toutes les formes, en même temps qu'un long mugissement plaintif passait en rafale sur la lande. Tout s'éteignit, noyé dans la reprise plus profonde des ténèbres.
« Hein ? L'as-tu entendu, la pauvre âme ? Quel gémissement de désespoir au moment où les démons l'ont emporté !»
Poulmic coquetait d'épouvante, tombé à deux genoux sur le carrelage, son chapelet égrené fébrilement, tandis que le Gall, blêmi, se signait rapidement, répondant « Le Vorok l'a ressaisi. Dieu a miséricorde d'elle. Quelle plainte, Seigneur, quand elle s'est sentie perdue !» Et tout le long de l'inébranlable muraille de roche, la mer recommença de se lamenter, pendant que le vent soufflait plus aigre, balayant l'océan, balayant la lande et emportant l'ombre jaillie du gouffre. À 11 heures, malgré la houle encore violente, malgré les sifflements du suroît qui, pour les observateurs inexpérimentés, semblait devoir poursuivre durant toute la nuit son œuvre de dévastation, Cornélie Troadec, ses 7 fils et tonton Mao quittaient silencieusement l'abri de la tempête. Tout reposait dans Camaret. Les barques ballottées dansaient dans le port. Le voyageur, ses volets clos, ayant gagné le lit qu'on lui avait préparé dans une chambre au premier étage de la maison, s'endormait, bercé par les derniers hurlements de l'ouragan, et fermait hermétiquement ses lourdes paupières sur ses vives et fouilleuses prunelles, ainsi qu'après un travail consciencieux, sans se douter que c'était maintenant surtout qu'il eût pu utilement faire manœuvrer leurs pointes aiguës et curieuses. Peut-être aussi s'en remettait-il confiant à l'avenir, ne pouvant se hasarder de nuit à travers un pays inconnu pour suivre ses hôtes dans l'expédition mystérieuse que le mari de Corentine avait failli raconter. Dehors, ayant échangé quelques phrases rapides, le paysan et les pêcheurs se séparèrent. Le premier, une peau de bique aux épaules pour combattre la fraîcheur nocturne, portant roulé sous le bras un vêtement de drap, sorte d'épais manteau, tourna le dos au port, se glissa le long d'une ruelle, et bientôt ses sabots sonnèrent contre les cailloux mêlés au sable de la lande, à mesure qu'il gagnait la hauteur, entre des ailes immobiles de moulins endormis, tête baissée, son chapeau rabattu sur les yeux pour donner moins de prise à la bourrasque, son penbaz solidement tenu dans sa main droite. La marée n'étant qu'à moitié, il y avait assez d'eau pour qu'un canot pût flotter. Cornélie et ses enfants sautèrent dans celui qui les avait débarqués. Pierrick se mit à la godille, et quelques minutes plus tard, tous s'embarquaient à bord des 7 frères. Il n'était pas la demi après 11 heures que, ses voiles brunes déployées avec 2 ris pris dans la toile, le solide bateau ponté des Troadec sortait du port, piquait droit vers la pleine mer, bondissant par-dessus les vagues et laissant derrière lui un long sillon d'écume. Il disparaissait derrière la pointe du Grand Goin sans que nul ne l'eût vu sortir de Camaret, pas même le poste de la tour rouge de Vauban. Par cette nuit profonde, sans lune, sans étoiles, il fallait admirablement connaître le pays pour s'y aventurer à travers de telles ténèbres et suivre, sans se tromper, sa direction au milieu du désert pierreux de la lande. Cependant, tonton Mao ne mit pas une demi-heure à parcourir l'espace qui s'étend du port à l'anfractuosité du Voroc. Arrivé là, après avoir soigneusement examiné l'étendue muette et solitaire autour de lui, après s'être assuré que l'humble village de Kerbonne dormait et avoir lancé un coup d'œil de défi et de dédain à la faible étoile qui brillait, indiquant vers la pointe de Penhyr l'exacte situation du poste des gardes-côtes, il déplaça quelques pesants blocs de pierre et tira d'une cachette un câble solide muni de distance en distance de nœuds et terminé par un fort grappin de fer. Ayant fixé celui-ci dans une fente du roc, il lança le cordage goudronné dans le vide, puis, ayant laissé ses sabots, cédant des pieds et des mains, descendit sans aucune hésitation en suivant une sorte de rigole naturelle creusée dans un des côtés de l'échancrure de la falaise. Par moments, des pierres, des terres meubles se détachaient, roulant sous ses pieds, mais, cramponné à la corde, il allait toujours, et déjà quelques embruns arrivaient jusqu'à lui, inondant sa peau de bique, lui annonçant le voisinage de plus en plus proche de la mer. Un dernier effort, une glissade suprême, et il sentit sous ses orteils la surface polie des galets que la marée descendante laisse à sec au fond de cet abîme. C'est à peine si de légères écumes venaient encore mourir autour de lui. Il marcha résolument vers l'océan, tâtant de la main la muraille lisse, absolument verticale, et murmura après un nouvel examen attentif autour de lui « La grotte doit commencer à se vider, il va être l'heure ». Quelques instants s'écoulèrent, et, tout à coup, une lueur d'abord assez faible, ensuite plus forte, plus étendue, ouvrit une gueule de fournaise, un cratère de volcan au pied même de la falaise. La grotte principale du Voroc s'illuminait, merveilleuse voûte de cathédrale naturelle, soutenue par des piliers énormes, encore luisants d'eau et montrant, sous le jeu mouvant du brasier allumé par tonton Mao, des parois drapées de teintes rouges, jaunes ou violettes, dans lesquelles dansaient les étincelles de milliers de pierres précieuses, rubis, topazes, améthystes, évoquées magnifiquement par les flammes. Malgré la brume qui s'épaississait, étendant son rideau mobile au-dessus de l'Atlantique et venant frôler d'une caresse humide continue les falaises, l'amas de brousse et d'ajoncs secs que le paysan avait eu soin d'apporter projetait sa clarté dans un rayon assez étendu pour miroiter sur l'ondulation des vagues dont les dernières étalaient leurs franges neigeuses à l'entrée même de la caverne. Il y avait déjà un certain temps que l'homme à la peau de bique, assis sur un énorme galet, en face du brasier dont il alimentait attentivement la flamme onduleuse, mesurait les minutes en égrenant son chapelet et en murmurant des patères et des ave, quand, des profondeurs obscures de l'Atlantique, une sorte de mélopée lente et rythmée arriva jusqu'à lui, glissant sur l'élasticité des lames. Il se redressa d'un mouvement brusque, la tête tendue vers le large, et des syllabes rauques se détachèrent de plus en plus nettes, cadencées régulièrement, avec une progression grandissante de sonorité, à travers la cotonneuse épaisseur de la brume, duvet qui en ouatait les barbares consonances. « Oh, is, ah, ah, hola !» Un sourire dilata les mille plis de son vieux visage, tandis que son cœur battait d'un mouvement plus rapide, d'un élan de joie à entendre, à reconnaître le signal convenu, la rude mélopée des pêcheurs et des marins à la manœuvre. « Oh, is, ah, ah, hola !»«
Ce sont eux, tout va bien »
fit-il. Il trempa dans le brasier l'extrémité d'une torche résineuse et, s'avançant vers la mer jusqu'à ce que l'eau lui montât à mi-jambe, il balança autour de sa tête, en formant un répété signe de croix, le brandon enflammé, tandis que de son gosier s'envolait en réponse l'air séculaire de la Bretagne. dont les notes venaient gronder mélancoliquement jusqu'au fond des grottes. Elles sonnaient tendres et vibrantes, les syllabes éternelles qui chantent l'indestructible amour du vieux pays breton, comme caractérise sa force l'éternel granit et le grès éternel des côtes armoricaines. C'est la vieille qui est ma douce, c'est la vieille qui l'est toujours. Un coup de sifflet strident leur répondit avec une grande phrase d'appel. « À toi, tonton Mao, croche dedans la mare !» Balayant l'air, l'extrémité d'un cordage vint s'abattre en rouleau au pied du vieillard qui, sans lâcher sa torche, saisit le câble et alla fortement dessus. Dans l'auréole de lumière qui formait éventail autour du voroc, l'avant noir d'un canot parut, émergeant de la brume, et les unes après les autres se détachèrent, soulignées par les derniers éclats brésillants du feu, les faces rougies de Cornélie, d'Alcide, de Loïs, d'Alan, de Pierrick. À l'arrière, dans l'ombre, près du mousse qui poussait l'embarcation avec sa rame, on distinguait une forme assise. Le premier Cornélie Troidec sauta, faisant rejaillir l'eau sous ses lourdes bottes et aidant Tonton Mao à tirer sur la mare pour amener le canot aussi près que possible de la grotte. Il semblait triomphant et murmurait, égayé d'un rire demi-contenu. « Un vrai temps de bénédiction pour nous, on n'y voit pas à 10 mètres. Fameux pour le genre de contrebande que nous faisons à cette heure. » Tout en essayant de reconnaître l'ombre indécise pelotonnée près de la barre, le paysan questionna. « Alors, ça a marché ?» Alcide retombait à son tour. Après s'être enlevé d'un saut par-dessus le bord, il grommela. « Oui, on a vu l'Anglais nez à nez. Malheur que ça n'ait pas été pour le prendre à l'abordage. On aurait eu la partie belle. » Mais Cornélie, mécontent, intervint. « On avait mieux à faire, le gars. Il y a temps pour tout. Et une autre fois, on se rattrapera. Aujourd'hui, c'est du bonheur du pays qu'il est question, et de la fidélité au vrai maître. » En même temps, ses yeux se dirigeaient avec une tendresse dévouée vers le bateau, comme s'ils eussent cherché à se mettre en communication avec la frêle silhouette autour de laquelle se dressait le rempart solide de ces grands gars. Tonton Mao fit, ému, la voix tremblante.
« Elle est là ?»
Le colosse inclina la tête, faisant oui du geste, sans une parole, une flamme de victoire dans ses prunelles candides de la couleur des eaux profondes. Maintenant, l'un après l'autre, Loïs et Alan étant débarqués, Alcide tendait son énorme poing sur lequel s'appliquait une main blanche, toute frêle, en même temps que Pierrick, resté à son poste du gouvernail, pesait sur l'aviron calé contre les galets. Et une fine et délicate figure de jeune fille s'avança, encadrée de cheveux noirs sans poudre, l'œil noir plein d'énergie, le nez gracieusement arqué achevait, avec la barre droite des sourcils, le pourpre éclatant des lèvres et la ligne ferme du menton, de donner à cette physionomie un incroyable caractère de décision, tout en lui conservant la grâce de la femme. Des vêtements entièrement noirs, sans la moindre note blanche, l'enveloppaient d'un deuil qu'on sentait voulu, deuil d'orpheline seule au monde et deuil de fidèle sujette de la monarchie frappée à mort, exilée. Mince, admirablement proportionnée en sa stature moyenne, elle offrait cependant une réelle et impressionnante grandeur, et la sensation qu'on se trouvait en présence d'une volonté. D'un rapide jet circulaire, ses prunelles enveloppèrent et unirent en une reconnaissante caresse tous ceux qui l'entourèrent, et d'une voix douce et nette, dont la sonorité avait une intonation musicale très séduisante, elle dit « Merci, mes amis, merci de tout mon cœur. Grâce à vous, à votre dévouement, à votre fidélité, me voici enfin en terre bretonne, en terre française, revenue chez les miens. Il y a si longtemps que je l'ai laissé, mon cher pays. Je compte sur vous pour ne plus jamais le quitter. » À peine eut-elle débarqué que, sur l'ordre de son père, le mousse repoussa le canot au large pour aller rejoindre les 7 frères, à bord duquel étaient restés Yann, Yves et Hervé, et qu'ils devaient tous 4 ramener à Camaret avant le jour. Ainsi, nul n'aurait connaissance de cette expédition nocturne qui avait conduit les 8 Camarétois au milieu de l'escadre anglaise, où, D'après une entente préalable, ils étaient allés prendre la jeune femme qu'ils venaient de débarquer avec tant de mystère en plein milieu de la nuit à cette grotte malfamée du Vorok au pied des hautes falaises considérées comme inaccessibles. Il avait fallu des pêcheurs aussi vigoureux, aussi hardis et surtout aussi expérimentés que les Troadec pour oser un pareil débarquement une nuit de tempête et de brume en ce point périlleux de la côte de Cornouailles entre les batteries et les postes du Toulinguet de Penhat, de la pointe des Poix et de l'Anse du Verriach. En tout autre endroit, ils se fussent en effet heurtés à des artilleurs, à des gardes-côtes, à une surveillance vigilante que seules leurs habitudes de fraudeurs de la douane avaient été capables de déjouer. Plus d'une fois, cette faille inquiétante et dangereuse du Vorok leur avait servi à des expéditions pour rapporter des marchandises, soit des îles de la Manche, où leur barque allait fréquemment, soit des îles de l'Atlantique comme Wedic, où les Anglais descendaient constamment. C'est ainsi qu'à Jersey, Guernesey, aux îles Chausey, ils avaient noué des relations avec les émigrés et servi à différentes reprises de trait d'union entre les monarchistes restés en Bretagne et ceux qui avaient quitté la France. Dès que la jeune fille eut pénétré dans la caverne du Vorok, où achevait de mourir le feu allumé comme signal pour guider la barque de Cornélie et lui servir de fanal, le paysan, s'avançant à sa rencontre, mit un genou en terre et, portant d'un mouvement de respect le bas de sa robe noire à ses lèvres, déclara « Le fidèle serviteur du défunt comte Huon de Quetrozec salue la fille de ses seigneurs et met aux pieds de demoiselle Anne tout son dévouement. » Mademoiselle de Quetrozec posa sa main sur la tête courbée de tonton Mao et répondit « Mathieu Plourac, de la Feuillée, près de notre ancien château, n'est-ce pas ? J'ai assez souvent entendu parler de toi par les amis de mon pauvre père, et je sais qu'on peut être sûr de ta fidélité. »
« Pour Dieu et pour le roi jusqu'à la mort »
s'exclama-t-il d'une voix sourde et sauvage, tandis qu'avec une sorte d'adoration, ses yeux s'élevaient vers le pâle et ardent visage de celle qui lui apparaissait comme la nouvelle Jeanne d'Arc, appelée à ramener le roi, comme l'héroïne désignée pour faire triompher enfin la cause qu'il avait, jusqu'à ce jour, si désespérément et si inutilement défendue. Ils restaient là, tous deux, lui courbé devant elle ainsi que le dévot écrasé sous la divinité d'une madone, elle, immobile, rêveuse, pleine d'espoir, contemplant ce rugueux fanatique et toujours solide combattant des longues luttes de la Vendée et de la chouannerie. Une voix grave les rappela impérieusement à la réalité. Cornélie annonçait « V'là le flot qui commence. Il n'est que temps de quitter le Vorok. Ça monte vite ici. » Un murmure puissant grandissait au large, indiquant le retour de la marée qui allait de nouveau envahir la base des falaises, battre le roc et effacer toute trace de leur passage. Tonton Mao se releva vivement, alluma une nouvelle torche et guida la jeune fille vers l'angle de la faille où pendait l'extrémité du câble à l'aide duquel il était descendu. Grâce à certaines sinuosités de la rigole creusée par les pluies, grâce à quelques anfractuosités pratiquées de distance en distance, l'escalade n'était pas aussi impossible qu'un examen superficiel aurait pu le faire supposer. En s'aidant de la corde à nœud, Anne de Quetrozec, qui, sous son apparence frêle, cachait une vigueur souple proportionnée à sa volonté presque masculine, parvint, sans trop de difficultés, à se hisser derrière le paysan qui montait le premier, tenant toujours sa torche flambante afin de lui indiquer le chemin. Dès qu'elle eut atteint le sommet de la falaise, il lui jeta sur les épaules le vêtement qu'il avait apporté, expliquant
« Monique Kervella m'a donné sa mante pour vous garantir du froid de la nuit. »
« Monique, la nourrice de mon infortuné père, quelle joie pour moi de la revoir après tant de dures années d'exil. Pourvu qu'elle me reconnaisse, j'étais si petite, une enfant, et aujourd'hui une femme. »
« Dans une heure, vous serez en sûreté. Il n'y aurait de tous dans sa maison à Kerloc. Mais sa tête est bien faible et sa raison envolée. »
Derrière eux, Cornélie, Alcide, Loïs et Alan venaient de prendre pied sur la crête rocheuse. une dernière fois à la sortie du gouffre, dans la circulaire vapeur blanche dont les cernait le brouillard, l'ombre d'âne de Quetrozec se projeta, grandie encore par la mante à larges ailes déchiquetées et à capuchon bizarre de Monique Kervella. Étendue par la rafale, ses plis lourds voletèrent et, autour d'elle, s'allongèrent les hautes silhouettes sombres des colosses qui l'escortaient, protégeant sa marche. Puis, le cordage roulé et glissé dans sa cellule de pierre, les torches écrasées sous les pieds, les ténèbres pesèrent de nouveau sur la lande et ensevelirent le Vauroc.